France Musique. France Musique.
France Musique.
Vous allez l'adorer.
Vous allez l'adorer.
Bonjour, soyez les bienvenus sur France Musique dans nos programmes d'été. Un réveil en douceur pour retrouver dans un instant Musique Matin et notre cher Gabriel Oliveira Guillon. C'est l'été sur France Musique, le 7h30-9h de Gabriel Oliveira Guillon, Musique Matin.
Bonjour à toutes et à tous. Jeudi 19 août, bienvenue dans Musique Matin. J'espère que vous avez passé une belle nuit. Notre invité tout à l'heure, le joueur de kora Balaké Sissoko, dès 8h30. Des concerts en Suisse, en France et deux disques en moins d'un an, seul ou accompagné. Et il sera là en studio avec nous, également avec son instrument pour notre plus grand plaisir. Dans 10 minutes, la revue de presse du jour et notre reportage aux rencontres musicales de Vézelay avec la 2e Académie de Direction de Chœur. 7h50, le jeu de l'été. Ce matin, pour gagner le disque Brel et Barbara a cappella par l'ensemble Aedes, chœur justement très présent à Vézelay cet été une fois de plus. Le journal de 8h de ce jeudi 19 août par Lisa Penalvert. À 8h10, le Tour de France des festivals fait une halte à Paris, précisément dans le parc floral du Bois de Vincennes pour le festival classique au vert. Et à 8h25, place à la création, notre rubrique autour des belles œuvres aux diverses esthétiques de compositeurs et compositrices vivants, vivantes, des artisans qui font vivre les musiques de notre temps, et c'est essentiel. Ce matin, à l'honneur, le compositeur Benoît Sidzia. Toute l'équipe de Musique Matin vous souhaite une très belle matinée. Si la maisonnée dort encore, alors vous pouvez vous resservir un café, vous détendre, les rendez-vous du jour attendront bien un peu. Et c'est Jean-Sébastien Bach que voici. bien voilà, la journée peut commencer. 7h34, Murray Peraya dans le prélude de la suite anglaise numéro 3 en sol mineur, BWV 808 de Jean-Sébastien Bach. Et nous continuons à faire le tour des festivals qui vous attendent et pour vous en Vendée, un festival dont France Musique est partenaire, dans les jardins de William Christie, la 10e édition du 21 au 28 août, dans quelques jours, magnifique propriété et artiste autour des arts florissants à tirer, avec aussi le retour des jeunes musiciens de la Juilliard School de New York, des concerts en plein air, dans le jardin de William Christie ou en l'église de Thierry, seront présents cette année Justin Taylor, Emmanuel de Négri, Léa Desandré ou encore Sophie de Bardonnèche et Paul Agnew. Au programme, Monteverdi, Bach ou encore Purcell. Mais tout de suite, nous les écoutons dans La descente d'Orphée aux enfers, cet opéra de chambre de Marc-Antoine Charpentier. Chœur et orchestre des arts florissants, dirigé par William Christie, dans Vous partez donc Orphée, ce chœur de l'acte 2 de l'opéra de chambre de 1686, La descente d'Orphée aux enfers de Marc-Antoine Charpentier.
C'est l'été sur France Musique.
Et à 7h39, oui, l'heure d'ouvrir les journaux, la revue de presse et notre reportage, c'est tout de suite. On y va. Alors, à Libération. Libération à Marseille. Le milieu culturel se mobilise pour les artistes afghans. porté par le MUCEM et la commissaire de l'exposition Carmora, l'Afghanistan au risque de l'art en 2019, un élan de solidarité a déjà permis à 3 artistes afghans et leurs familles de se réfugier en France. Une quinzaine d'autres est attendue pour poursuivre leurs œuvres. Le téléphone de Gilda Chaverdi, l'ancienne responsable de l'Institut français d'Afghanistan, est comme un fil qui la relie au chaos qui s'est emparé de Kaboul depuis la prise de la capitale par les talibans dimanche. Ça fait des semaines qu'elle recevait des nouvelles inquiétantes. Durant 4 mois, le Musée des civilisations avait présenté une 60aine d'œuvres de jeunes afghans racontant la complexité d'un monde où l'art contemporain pouvait enfin émerger après la chute des talibans en 2001, mais où parallèlement l'insécurité rythmait toujours le quotidien. Parmi les 11 artistes exposés, 8 résidaient toujours à Kaboul lorsque l'imminence du retrait des troupes américaines a accéléré la reconquête du territoire par les talibans. La plupart des grands établissements de la ville et de la région, du FRAC à l'École nationale supérieure de la photographie d'Arles, en passant par la ville Arson de Nice, se greffe au projet auquel s'associe également l'université d'Aix-Marseille et l'atelier des artistes en exil de Paris. Apportant son expertise, fin juillet, une cagnotte est lancée pour payer les billets d'avion dont le prix, déjà exorbitant de 1000 euros, augmente de jour en jour. Si les structures impliquées ont su réagir dans l'urgence, elles espèrent que le ministère de la Culture, qui suit le projet depuis le début, apportera son aide sur le long terme. La cagnotte lancée pour les billets d'avion devait permettre d'assurer les premiers mois de leur quotidien. Plus de 60 000 euros ont déjà été collectés, c'est à lire dans Libération. À lire également dans la lettre du musicien signée Antoine Péqueur, le concours Lon-Thibaut Crespin. En pleine turbulence, les directeurs artistiques du concours, Dominique Meyer, Renaud Capuçon et Bertrand Chamaillou, viennent de démissionner. Un nouveau comité artistique est mis en place. La crise sanitaire aura eu plusieurs impacts sur ce concours. En 2020 et 2021 ont été successivement annulées les éditions consacrées au chant et au violon. Mais à cela s'ajoutent d'importants bouleversements internes. En cause, la fragilité de la structure qui s'est accrue ces dernières années du point de vue de son financement et de son organisation. L'équipe du concours Lon-Thibaut, y compris l'administration démissionnaire, appelait à une réforme de la structure. Gérard Beckerman en devient le président. Un nouveau comité artistique a été mis en place, constitué entre autres de Vadim Repin, Katia Buniatichvili ou encore Jérémy Rohrer. Du discours aux actes, eh bien, réponse l'année prochaine avec l'organisation du concours 2022 dédié au piano. Les éliminatoires commencent dès novembre à la salle Cortot. Et puis dans Le Monde, Pierre Gervasoni nous offre une belle critique de disque tout en dressant le portrait du compositeur Saint-Saëns. Saint-Saëns en épopée symphonique et miniatures orchestrales. 2 parutions discographiques à l'occasion du centenaire de la mort du compositeur, invitant à réviser ses classiques de la danse macabre au carnaval des animaux. L'un par Alex Vizorek, récitant auprès du duo Yatekok et l'Orchestre National de Lille. Et l'autre avec l'intégrale des symphonies, un coffret de 3 disques publié par Naxos avec Marc Soustro à la tête du Malmö Symphony Orchestra. Et le concert, cette fois-ci, pour des chefs de chœur en devenir. Il s'agit d'une expérience unique. Une semaine de stage avec l'ensemble Aedes et son directeur musical Mathieu Romano. Une académie d'été qui se tient en Bourgogne dans une abbaye en marge des rencontres musicales de Vézelay qui débutent ce jeudi. Objectif, contribuer à l'insertion professionnelle de ces jeunes chefs et leur permettre d'approfondir leur pratique dans un cadre d'exception avec l'un des meilleurs ensembles vocaux français. Le reportage de Louis-Valentin Lopez.
Il est midi, aucun bruit ne vient troubler le silence qui règne autour de l'abbaye de Rény, mais si on tend l'oreille, on distingue comme un air de Brahms. On franchit la porte du vaste réfectoire de style gothique, on y retrouve les chanteurs de l'ensemble Aedes et leur voix saisissante. Mais devant eux, pas un, mais plusieurs chefs de chœur qui se succèdent aujourd'hui. 6 jeunes, en fin d'études ou professionnels depuis peu de temps, Louis, Ophélia, Félix, Ona, ils ont la chance de pouvoir se perfectionner durant cette académie d'été.
On a dû écrire une lettre de motivation, on a dû également envoyer un CV et puis des vidéos d'une dizaine de minutes en dirigeant différentes pièces. Pour moi, c'est pas mal la reprise après une année assez vide. C'est beaucoup de joie.
Et évidemment, un peu de pression parce qu'on a envie d'être au meilleur de soi-même devant des gens aussi compétents.
On est ensemble dans une abbaye l'été avec un beau jardin. Tout se fait avec simplicité, honnêteté. On n'est pas là pour se juger.
Il y a aussi le côté un peu laboratoire, de vraiment en profiter pour essayer des choses. Il y a aussi Ona et Nelle qui viennent de Suisse et d'Estonie. Et ça aussi, c'est super parce que ça apporte des choses assez différentes.
On apprend tellement beaucoup aussi des autres, de l'ensemble et de profs. C'est vraiment
une grande chance de faire de la musique comme ça.
Tout cela sous la houlette bienveillante de Mathieu Romano, le directeur musical. Il scrute les chefs de chœur en herbe.
C'est très frustrant, on a eu une cinquantaine de candidatures et globalement toutes très bonnes. On essaie de voir pas forcément que les meilleurs, mais aussi celles et ceux chez qui on voit des potentiels ou au contraire voilà, des choses à débloquer. Il y a une patte personnelle, mais je crois qu'il y a avant tout, je pense, un lâcher-prise dans le fait de savoir montrer ce qu'on veut musicalement, savoir se mettre à nu pour que les instrumentistes ou les chanteurs qui sont en face de nous puissent comprendre le message et l'interpréter.
I'm so sorry, but
L'Académie qui accueille, on l'entend, une invitée de marque cette année, qui prodigue de précieux conseils aux jeunes, la chef de chœur norvégienne Grete Pedersen.
Quand Mathieu m'a appelée, j'ai dit oui, je veux venir. En chant choral, il y a un texte. Nous devons trouver l'essence du texte, l'expression aussi, la technique. Ne pas déranger les chanteurs, mais les aider, diriger, mais pas s'interposer. C'est toujours une question d'équilibre. J'apprécie vraiment le dévouement de ces jeunes, leur sensibilité. Ils souhaitent s'améliorer, se questionner, apprendre. Mais je suis probablement celle qui apprend le plus.
Et pour parachever leur semaine, les six jeunes chefs dirigeront l'ensemble à Edès ce vendredi à l'Abbaye. Une belle marque de confiance pour des débuts de carrière plus que prometteurs.
Un reportage signé Louis-Valentin Lopez depuis les rencontres musicales de Vézelay. À retrouver, réécouter bien sûr sur le site de France Musique. Bonne matinée à notre écoute, 7h46.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek, when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak when we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you, the charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek.
Cheek to Cheek sur France Musique, chanson composée par Irving Berlin en 1935 et à l'instant interprétée par Fred Astaire avec Léo Reisman et son orchestre, une chanson composée par Berlin pour Fred Astaire et Ginger Rogers dans le film Le danseur du dessus Top Hat. Et à 7h50, nous avons encore un disque à vous faire gagner, plusieurs exemplaires. Alors pour jouer, je vous laisse vous diriger vers notre site pour jouer avec nous. Tentez ce matin de gagner le disque Brel et Barbara par l'ensemble Aedes dirigé par Mathieu Romano. On l'entendait juste avant dans le reportage de Louis-Valentin Lopez. Ici, ce disque Brel et Barbara, des reprises magnifiques pour chœur a cappella. Pour le gagner, ce disque, il vous suffit de répondre correctement à la question qui va suivre en nous écrivant via l'onglet « Contactez-nous » sur notre page d'émission Musique Matin sur francemusique.fr. Votre réponse, bien sûr, mais aussi vos coordonnées complètes pour recevoir le disque si vous êtes tiré au sort. Alors voici la question. Deux immenses figures de la chanson, Brel et Barbara, ils ont eu un projet commun. Oui, mais lequel ? Un film, France, une chanson, l'amour, ou bien un enfant ? Ah oui, on travaille nos propositions chaque jour, vous savez. Brel et Barbara étaient de grands amis et ils ont eu un projet ensemble. Était-ce un film, une chanson ou un enfant ? La bonne réponse sera dévoilée juste avant 9h et le nom des gagnants également. Alors il faut rester à l'écoute, en attendant. Voilà le chœur Aedes interprétant l'une des chansons de Barbara, Hopla.
J'étais au monde, je n'avais rien dans la tête. C'est drôle, j'avais tout dans les gambettes. Sur une bagnolet près de la rue des Pyrénées. Quand je suis née, hop là.
Sur elle, quand on prend une petite bête, une lentille, une bref, une patrette. De pieds cambrés, pas besoin d'être parfaite pour deviner.
Hop là.
Calage long, pas la grande, pas la méchante, pas la chienne. Soleil, ça n'a pas, pas de chèque, pas de
mèche. J'ai gambettes guinées de soie. Déjà, je me pêche. Hop là! Je n'ai pas dansé les mondes enfantines. Le moins joli sonner, sauter mes matines. À pas de loup, mais déjà sans pas du loup. À 15 ans,
je me trottine.
J'ai pas de tête,
pas de tête.
Mais j'ai des joues,
mais des jambes.
Qui me porte,
qui la porte,
me rapporte,
qui la porte.
Je l'ai honte,
je l'ai vu. Trottine,
trottine,
on mutine,
mutine,
on se lance.
suis pas vraiment religieuse, mais chaque jour auprès de vous, mes chers frères, j'égrène mon rosaire. Entrez mes frères, entrez, c'est l'heure où l'on prie. Ensemble nous aurons d'autres paradis, ensemble nous monterons au septième ciel.
Hop là, chanson de Barbara, arrangée par Julien Joubert et à l'instant interprétée a cappella par le chœur, l'ensemble Aedes, dirigé par Mathieu Romano. C'est un extrait du disque que nous vous offrons ce matin et vous êtes nombreux à répondre et je pense que vous êtes nombreux également à avoir la bonne réponse. Chaque jour, donc, nous continuons à vous parler des festivals et là, je vous parle à vous du côté de la Trinité-sur-Mer, dans le joli département du Morbihan. Les 1000 musicaux qui ont proposé plusieurs concerts depuis le 7 juillet avec notre collègue, ami et pianiste Philippe Cassard, entre autres. Un dernier concert pour l'été, ce sera mercredi prochain, le 25, avec le pianiste Maxence Pilchen. Ce sera à 21h, à la Trinité-sur-Mer, donc. Avec Chopin, un compositeur qu'apprécie particulièrement le pianiste franco-belge, ballade et polonaise au programme. Il l'avait déjà gravé au disque, mais les 24 préludes de l'opus 28, que voici, c'est le numéro 17. Le prélude en la bémol majeur opus 28, numéro 17 de Frédéric Chopin, interprété par Maxence Pilchen. Musique Matin, nous revenons dans quelques instants et avec nous, à 8h30, le joueur de kora Balaké Sissoko.
Bonjour à tous. Du lundi au vendredi, de 12h à 13h, l'agenda de l'été, c'est votre agenda. Des festivals, des dates, des bons plans, des places à gagner, il y en a forcément pour tout le monde, partout en France et puis surtout de la musique, beaucoup de musique. Alors à vos carnets, c'est tous les midis sur France Musique et francemusique.fr.
Se vacciner contre la Covid-19, c'est se protéger, protéger les plus fragiles, et pouvoir bientôt tous se retrouver. Qui peut se faire vacciner aujourd'hui? Toutes les personnes de 12 ans et plus. Alors n'attendez plus. Faites-vous vacciner. Vous pouvez vous renseigner et prendre rendez-vous sur santé.fr ou auprès d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un infirmier. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé et de l'Assurance Maladie.
Jeudi 19 août, merci d'écouter France Musique, il est 8h. À 8h, l'heure des informations présentées par Lisa Penelver. Bonjour Lisa.
Bonjour Gabriel, bonjour à tous. Dans le Var, le gigantesque incendie a fait 2 morts hier après 3 jours d'activité. Aidé par le vent, il a continué à s'étendre dans l'arrière-pays de Saint-Tropez et dans le massif des Maures. Les pompiers comptent à présent sur l'accalmie du vent et la baisse des températures pour en venir à bout. Les premiers Afghans accueillis par la France sont arrivés à Paris hier en fin d'après-midi. D'autres ont atterri à Madrid ce matin, mais tous ne partent pas. À quoi ressemble la vie de ceux qui restent dans les villes sous contrôle taliban? Margot Kefelak a recueilli les témoignages de 2 Afghans qui vivent dans le nord du pays, repris par les talibans il y a plusieurs jours.
Elle arbore comme photo de profil une femme qui embrasse le drapeau afghan. À 21 ans, cette jeune fille a la voix tremblante et très inquiète depuis que les talibans ont pris le contrôle de sa ville il y a une semaine.
Pour l'instant, ils embêtent surtout les femmes. Moi, ça fait une semaine que je ne suis pas sortie de la maison. Je n'ai plus l'impression de vivre dans mon pays, mais dans un pays étranger.
Peu d'habitants s'aventurent dans les rues, ce qui a des conséquences sur l'activité de son mari, mécanicien.
Avant, c'était bien. Depuis qu'il y a les talibans, il n'y a plus de travail. On puise dans nos économies.
À 100 km, cet homme a assisté à la fuite des femmes du village qui travaillaient et à celle de son voisin, ancien policier. Désormais, il reste enfermé dans sa maison cossue avec ses 5 enfants.
Ils ont peur, ils ne sortent même pas de peur d'être arrêtés par les talibans. Pour l'instant, les écoles sont fermées, les talibans disent qu'ils vont les ouvrir avec le hijab islamique. Aujourd'hui, je leur ai dit, l'école va rouvrir, mais rien à faire. Ils disent, non, on ne veut pas sortir, on a peur des talibans.
L'homme a passé son enfance sous le régime des talibans et il est persuadé qu'ils vont imposer de nouveau la terreur, petit à petit, comme il le dit. Sa plus grande crainte, c'est qu'une guerre civile n'éclate dans les mois à venir.
Margot Kefelak. Et face à l'incertitude politique qui règne en Afghanistan, le FMI suspend ses aides en faveur du pays. En Haïti, le bilan du séisme de magnitude 7,2 survenu samedi est une nouvelle fois revu à la hausse. Il a coûté la vie de près de 2200 personnes et les recherches se poursuivent, tandis que les près de 600 000 personnes affectées par le séisme attendent désespérément l'arrivée d'aide humanitaire. En France, 40 millions de Français sont totalement vaccinés contre le Covid. Le nombre d'hospitalisations continue toutefois d'augmenter et le seuil des 2000 patients en soins critiques a même été dépassé. Cette hausse est particulièrement visible en Outre-mer où les populations sont moins vaccinées. 100 tonnes d'oxygène sont livrées aujourd'hui en Martinique pour soulager les hôpitaux complètement saturés. Et à La Réunion, le Covid perturbe une nouvelle fois la rentrée scolaire. 220 000 écoliers, collégiens et lycéens retournent en classe depuis lundi. Un protocole sanitaire a été mis en place. Les élèves cas contact ou positifs pas vaccinés ne pourront pas se rendre en cours. Mais en pratique, Sophie Vénétité, secrétaire générale adjointe du premier syndicat enseignant dans les collèges lycées, le SNES FSU, constate que les ordres sont contradictoires.
2 jours avant la rentrée des professeurs, le rectorat a indiqué que il n'était pas en mesure de mettre en place la nouvelle mesure, la mesure un peu phare annoncée par Jean-Michel Blanquer, et qu'il allait falloir patienter un peu, et qu'en attendant, quand il y aurait un cas de Covid dans une classe de collège ou de lycée, toute la classe serait fermée pour 7 jours. Et puis, quelques jours après, il y a eu une autre information selon laquelle, s'il y a un cas de Covid dans une classe, les élèves qui seraient cas contact, qu'ils soient vaccinés ou non, seraient mis à l'isolement. Et depuis hier, on commence à entendre de nouveau parler de statut vaccinal des élèves. Donc autrement dit, c'est 3 informations différentes quasiment en une semaine, ce qui prouve bien que les choses sont loin d'être stabilisées. Vraisemblablement, vu la dynamique de l'épidémie sur l'île de La Réunion, il va y avoir des cas dans les collèges et les lycées, et il va falloir des clarifications très rapides, c'est ce qu'on a demandé. En tout cas, on a l'impression que c'est un crash test pour le protocole sanitaire. C'est pas normal qu'une académie soit considérée comme le laboratoire de ce qui se passera ailleurs.
Sophie Vénétité du SNES FSU avec Lise Lacombe. Le syndicat a déposé un préavis de grève pour couvrir les éventuelles mobilisations à venir des équipes pédagogiques. La France reçoit ce jeudi son premier chèque dans le cadre du plan d'aide européen suite à la crise du Covid. Nous toucherons 5,1 milliards d'euros de subventions, s'est félicité Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, dans un entretien accordé à Sud-Ouest. L'UE subventionnera au total plus d'un tiers du plan de relance français de 100 milliards d'euros. La météo pour finir, le temps reste nuageux avec peu d'éclaircies sur la moitié nord du pays et sur la Nouvelle-Aquitaine. Dans le sud-est, le ciel est toujours ensoleillé. Côté température, on attend 19 degrés à Nantes, 20 à Lille, 21 à Biarritz et 28 à Ajaccio. Vous écoutez France Musique, il est 8h05, l'heure de retrouver Gabriel Oliveira-Guillon pour Musique Matin.
Merci beaucoup Lisa Penalver. Prochain journal sur France Musique à midi avec vous.
Tout à fait.
Et nous, on se retrouve demain à 8h.
C'est l'été sur France Musique. Le 7h30-9h de Gabriel Oliveira-Guillon, Musique Matin.
Bienvenue. La deuxième partie, c'est maintenant. Nous recevrons dans moins d'une demi-heure le musicien malien, joueur de kora, Balaké Sissoko, pour ses deux disques de l'année, ses prochains concerts en France comme en Suisse. Et il viendra accompagné de sa kora pour nous jouer quelques notes ici dans le studio. À 8h10, dans 5 minutes, la route du Tour de France des festivals avec Julien Kiefer, directeur artistique du festival Classique au Vert, qui se déroule actuellement au Parc Floral du Bois de Vincennes. Et puis à 8h25, place à la création qui met ce matin à l'honneur un compositeur né en 1990, Benoît Sidia. Eh bien oui, car la musique ne cesse d'être créée, inventée, composée. Et c'est tant mieux. Bon réveil avec France Musique. Thank you. publiée en 1880 avec le soutien de Brahms, une œuvre de Dvorak, c'est Bagatelle pour trio à cordes et piano opus 47, à l'origine avec une combinaison instrumentale inédite de violon, violoncelle et harmonium, et donc ici de violon, violoncelle et piano, interprété par la famille Moreau, Raphaël et David au violon, Edgar au violoncelle et Jérémy au piano, une fratrie présente qui était au complet à Classique à Guétari il y a quelques jours et qui seront en concert ce soir en l'église de Saint-Léon-sur-Vézère à 21h dans le cadre du Festival du Périgord Noir pour le programme de leur récent disque A Family Affair, Korngold pardon, et Dvorak, comme à l'instant sur notre antenne. Tout de suite à 8h11, c'est notre tour de France des festivals. Un tour de France, et pour nous, ce n'est pas loin, le parc floral du Bois de Vincennes aux portes de Paris, classique au vert, l'un des festivals que propose le parc floral. À la direction artistique, Julien Kiefer avec nous au téléphone. Bonjour.
Bonjour Gabriel.
Bienvenue dans Musique Matin. Alors un programme classique le week-end depuis le mois de juillet. Le prochain c'est ce samedi 21 avec l'orchestre de l'Opéra de Rouen en Normandie, Marina Chiche au violon et Chloé Dufresne à la direction. Le week-end dernier c'était Paul Lai le 14 août. Trois esthétiques d'ailleurs cet été, le jazz, les pestacles pour enfants et le classique réunis tout l'été en alternance. C'est nouveau ça?
Alors, en fait les trois festivals existaient de manière prééminente, il y avait ces trois festivals, ces trois esthétiques qu'on a réunis sous une seule bannière qui s'appelle les festivals du parc floral, qui permettent de mélanger chaque week-end des concerts de jazz, de classique, pour que les publics aussi se retrouvent, se mélangent et que les chapelles se décloisonnent.
Un croisement des genres, des publics, ça a facilité, vous le sentez, depuis le début de l'été, la curiosité justement des uns et des autres qui peut-être un jour écoutent un concert de jazz et puis peuvent être attirés par quelque chose de plus classique ou revenir avec les enfants?
Oui, exactement. C'est ce qu'on a un peu remarqué depuis l'an dernier quand on a expérimenté cette formule liée à la crise sanitaire. C'était justement que des publics nouveaux arrivaient dans les concerts de classique et aussi dans les concerts de jazz et se retrouvaient, on se rendait compte des passerelles qui pouvaient exister. C'est dans ce cadre que notre artiste Paul Lai nous a joué un concert de jazz, un concert de jeune public et un concert de classique. C'était un peu l'artiste associé.
Ouais, ouais.
Exactement.
Alors, ce sont des concerts gratuits. Il faut le préciser, enfin presque, entre 1,50€ et 2,50€ parce qu'il faut payer l'entrée du parc floral et c'est tout. C'est une vraie fierté, j'imagine, de se dire, ben oui, nos concerts sont accessibles à tous et gratuits.
On est ravis parce que c'est aussi pour nous l'occasion de pouvoir faire venir des grands artistes avec un public qui n'est pas forcément celui qui vient franchir les portes des salles de concerts parisiennes, qui sont parfois des portes un peu symboliques, et où le public, dans un moment, avec des promeneurs, des jeunes, des personnes qui vont juste pique-niquer, qui sont attirées par la musique, se retrouvent et partagent un moment ensemble.
Julien Kiefer, comment avez-vous pensé la programmation de cet été pour Classique au Vert?
Alors, ce qu'on a voulu, c'était proposer une sorte de panorama de tout ce que la musique classique pouvait proposer. Alors, de la sonate, on a eu Pavel Kolesnikov, le pianiste russe, mais aussi de la musique de chambre. On aura bientôt le Quatuor Modigliani avec Cyrano Sian, de la musique orchestrale. Donc, vous avez parlé de l'orchestre de Rouen Normandie, mais il y aura aussi l'orchestre français des jeunes et l'orchestre de chambre de Paris. Mmh. Et évidemment, des grands solistes, quelque chose qui puisse permettre de pouvoir, à la fois à travers le répertoire et à travers les formations, découvrir toute la richesse de ce que la musique classique peut proposer.
Et puis cette année, Julien Kiefer, il y a les nocturnes, ces concerts le soir à 20h30, donc plutôt que l'après-midi. Deux à noter, vous en avez parlé, hein, vendredi prochain, le 27 et le 3 septembre avec l'Orchestre des Jeunes. Qui pourra-t-on écouter à part cet orchestre?
Alors pour ces deux nocturnes, on avait envie d'avoir des artistes, des soirées de prestige avec un esprit particulier comme celui des proms un peu dans les pays anglo-saxons. Mmh. On aura un concert le 27 août avec Gauthier Capuçon, le grand violoncelliste français, Jérôme Ducrot et Hugues Borsarello, avec des pièces françaises emblématiques, Debussy, Ravel, Massenet, Thaïs. Ensuite, on aura le 3 septembre, le Nikolaï Louganski. On voulait une rencontre entre deux grands artistes, Lars Vogt, le grand chef d'orchestre et pianiste, et Nikolaï Louganski, immense pianiste russe, qui vont se retrouver autour de Mozart. Donc, pour clôturer presque ces festivals de l'été.
Classique au Vert, donc avec ces deux concerts-là, nocturnes, 20h30, ceux-là seront payants, c'est cela?
Exactement, c'est des concerts et billetterie, mais qui n'enlèvent rien à tous les concerts gratuits qui sont proposés le reste du temps dans le cadre du parc floral.
D'ailleurs, pour revenir à cette gratuité, comment vit le festival Classique au Vert financièrement ? Les musiciens jouent gracieusement ou vous avez des subventions, des aides ? Comment ça se passe ?
Alors, c'est un festival qui est en grande partie soutenu par la ville de Paris. L'an dernier, on a eu quelques adaptations avec le contexte sanitaire, mais à chaque fois, chaque concert, tous les artistes ont été payés l'intégralité du cachet qui avait été négocié. On n'a rien renoncé à ce niveau-là. Le but dans cette situation où les artistes ont été les premiers à souffrir, c'était évidemment de les soutenir, de leur donner une scène, de leur donner la possibilité de retrouver le public. Et c'est ce qu'on avait réussi à faire en 2020 et qu'on continue à faire en 2021 avec évidemment beaucoup de plaisir, mais aussi une responsabilité.
Julien Kieffer, merci beaucoup. Bon, alors, il fait pas beau à Paris depuis quelques semaines. En fait, on ne sait même pas d'ailleurs s'il était à commencer. Les gens, le public, est-ce que les gens viennent tout de même se promener et puis donc écouter de la musique ? En l'occurrence, on espère pour ce samedi. Vous sentez quand même qu'il y a de l'engouement ?
Oui, on sent qu'il y a du monde à chaque concert. Et évidemment, à partir du moment où la météo est un peu plus capricieuse, la file d'attente est un tout petit peu moins longue, mais les gens viennent souvent très très tôt pour pouvoir accéder à ces concerts. Oui. Et on sent quelque chose qui frémit. Et on espère l'été indien jusqu'au 4 septembre, qui sera la fin du festival. Et
exactement, les festivals du Parc Floral. Prochain concert donc pour Classique au Vert ce 21 août, samedi à 16h avec l'Orchestre de l'Opéra de Rouen, Normandie. Et puis là, on écoute le Quatuor Modigliani, que vous connaissez bien. Ils seront en concert dimanche 29 à 16h avec la violoncelliste Astrid Cyranocian. Merci beaucoup Julien Kieffer.
Merci beaucoup, à bientôt.
Scherzo du Quatuor à cordes numéro 1 en La mineur, l'opus 41 numéro 1 de Robert Schumann par le Quatuor Modigliani. Et sur France Musique à 8h19, il est temps maintenant de vous annoncer un petit peu ce qui vous attend pour votre soirée musicale à l'affiche des concerts du jour sur France Musique. À 16h, concert de 2019 dans le cadre du Festival de musique baroque du Jura, avec le poème harmonique dirigé par Vincent Dumestre, un concert qui vous sera présenté par Laurent Lefrançois. À 20h, Festival international de piano de la Roque d'Anteron, avec le récital du pianiste Nikolaï Louganski, on en parlait. Ce récital donné il y a quelques jours, quelques semaines, dans le cadre cadre de ce grand festival. Rachmaninov, Bach et Beethoven au programme. Et puis à 23h, un concert lui aussi de 2019 dans le cadre du festival de piano d'Helsingborg du pianiste jazz finlandais Hiro Rantala. Un petit avant-goût, donc, tout de suite avant le concert apéritif de votre soirée musicale sur France Musique. D'ores et déjà, l'une des pièces que Nikolaï Louganski a jouée à la Roque d'Anthéron il y a quelques jours, c'est Rachmaninov. Merveilleuse interprétation de Nikolaï Louganski au piano dans cette étude tableau en ré mineur opus 39 numéro 8 de Sergueï Rachmaninov. Nikolaï Louganski qui était il y a quelques jours dans le cadre du Festival International de Piano de la Roque d'Anthéron, et c'est ce concert, un extrait de ce concert que nous diffusons tout à l'heure à partir de 20h, 8h24. Place à la création, les musiques d'aujourd'hui à l'honneur comme chaque matin.
Musique matin.
Et ce matin, à l'honneur, un compositeur né en 1990, Benoît Sidzia, nommé directeur général de l'ensemble Ars Nova. Il œuvre à l'évolution, au développement de cette institution historique de la création musicale. Et puis, convaincu de l'importance de la pédagogie et de la transmission auprès de tous les publics, il s'investit régulièrement en tant que médiateur afin de faire découvrir et valoriser les musiques de répertoire et de création. Et ce matin, je vous propose d'écouter son œuvre, L'agogique du silence, sur un texte d'Éléonore Duprat, une composition de 2016 qui a été créée en 2017, commande et création de l'ensemble Chromosphère, avec Rémi Tripodi au saxophone, Lisa Heuth à l'accordéon et Raphaël Jaffiol à la clarinette, une œuvre dédicacée à Peter Hudvösch, Stefano Gervasoni et Éléonore Duprat. L'écriture de cette pièce, La Gogique du silence, a été un moment déterminant pour la définition de ce qui peut apparaître comme un univers peu poétique et musical dans lequel le compositeur se reconnaît et s'affirme en tant que compositeur. Et c'est un chemin vers sa propre musique, vers une expression poétique qui entraîne l'écriture au-delà d'une simple et parfois trop réductrice quête esthétique. C'est donc entre deux mondes, entre mots et musique, qu'il découvre, encore d'ailleurs, un espace d'équilibre où les sons et les images se rencontrent en une même source intime, humble et silencieuse. Nous allons donc l'écouter, cette agogique du silence, tout de suite, 8h25 sur France Musique.
Thank you.
L'agogique du silence du compositeur Benoît Sidzia, une composition qui date de 2016, composée sur un texte d'Éléonore Duprat, créée en 2017 par l'ensemble Chromosphère. À 8h30, il est l'heure maintenant d'accueillir notre invité.
Musique Matin, le 7h30, 9h de Gabriel Olivier Aguillon.
Ce matin, avec nous, une célébrité de la kora, cette harpe luth que l'on joue en Afrique de l'Ouest, Balaké Sissoko. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans Musique Matin. Alors, Balaké Sissoko, deux disques cette année, des concerts à venir en Suisse, en France. Vous êtes même venu avec votre instrument, la kora, qui est posée dans le studio. On va l'écouter tout à l'heure. Oui. Et puis, on va aussi écouter des extraits de votre nouveau disque, le prochain qui sort en septembre. Ben voilà, on est très gâtés. Balaké Sissoko. Votre prochain disque, donc, on va écouter La plage Simbo Salaba. Qu'est-ce qu'il raconte, ce disque, Atuma? Là, vous êtes tout seul, oui. Juste la kora seule.
Atuma, cela veut dire, c'est le moment, en langue bambara, donc c'est le moment, donc, parce que là, je dis, comme là, j'ai déjà trouvé plus de cinquantaine, donc le nerf ne peut pas tenir comme ici, on est très jeune. Donc là, je fais l'expérience pour la nouvelle génération puisse et comprendre. Donc pour moi, c'est une œuvre que là, je fais à l'âge de demi-siècle. Donc le moment est arrivé.
C'est maintenant.
Voilà.
Balaké Sissoko, vous êtes né à Bamako en 1967. Mm-hmm. Tombé sous le charme de la kora en écoutant votre père, c'est ça?
Oui.
Djeli Madi Sissoko, qui était directeur musical de l'ensemble instrumental du Mali. Vous avez commencé comme ça, naturellement?
Oui. Bon, en fait, c'est ça aussi, parce que dans notre maison, et à la maison, on n'a pas une obligation en dix jours. Donc là, c'est une passion. Donc c'est à la maison. Donc là, j'ai vu mon père et Boyjo et puis son père aussi. Donc moi, je trouve la kora dans les deux sens. Donc bon, lui, là, c'est un choix que je fais aussi dans la vie.
Mmh. Et vous avez repris à la mort de votre père en 1981 cet ensemble instrumental du Mali. Et c'est avec cet ensemble que vous êtes venu en France pour la première fois?
Oui, oui, je peux dire c'est l'ensemble qui m'a fait une grande ouverture aussi et par rapport et dans la musique. Le premier voyage là, c'était l'ensemble de l'association de Raoul Folero en 85. Donc là, c'était la première fois que là je viens sur la France. Donc bon, après là, j'ai fait tour du monde avec l'ensemble instrumental aussi. Donc ça m'a donné une ouverture pour et faire autant de collaborations, autant de mélanges musicaux, parce que et dans l'ensemble aussi, il y a pas que le mandingue, donc il y a beaucoup d'ethnies. Donc de là que là, j'ai commencé vraiment.
Déjà là, il y avait des mélanges.
Voilà.
On va écouter un extrait Simbolo Salaba de votre nouveau disque qui sort le 10 septembre sur le label No Format, le disque Atuma, 8h32. Thank you. extrait un peu en avant-première sur France Musique du tout nouveau disque de Cora Solo de notre invité Balaké Sissoko. Ce titre, à l'instant, Simbo Salaba. Je lis que c'est une pièce, Balaké Sissoko, inspirée de l'épopée mandingue de Soundiata Keïta, un souverain malien du XIIIe siècle.
Oui, bah en fait, moi, le but que j'ai pour toujours, c'est pour toujours que mettre des choses sur place en inspirant autour de ma mélodie. Donc, prends le conseil autour de le peuple mandingue. Donc, pour que là, ça se disparaît pas parce qu'il y a pas, beaucoup d'écriture.
Mais la kora existait déjà à cette époque?
La kora, c'est à cette époque, là, c'est plus jeune. Hein. Donc, c'est dans le 17e siècle.
D'accord.
Donc, là, c'est pas que, là, c'est le ngoné, le balafon qui est plus vieux, et plus l'instrument mandingue. Mais la kora, c'est la nouvelle, là, c'est plus jeune. Ouais.
Balaké Sissoko, vous serez en concert très prochainement, ce samedi après-demain en Suisse, à Lausanne le matin même, et puis au Cully Jazz Festival, donc toujours le 21, et puis on vous écoutera le 4 septembre au Festival Les Pluies de Juillet, et puis à Paris, 1er octobre New Morning, et le 26 à La Cigale. Là, vous donnerez des extraits de votre précédent disque, celui qui est sorti au printemps, Djourou, où vous avez invité, on parlait d'ouverture tout à l'heure, vous avez invité plein de chanteurs, d'artistes grands comme vous. Comment ça s'est fait, ces rencontres-là? Je vais en citer quelques-uns, Oxmo Puccino, Camille, Vincent Segal, Patrick Messina, ou encore Pierce Faccini.
Ouais.
Comment vous avez choisi tous ces artistes avec qui jouer?
Bon, en fait, parce que pour moi, chaque chose que je fais, il y a une continuité. Donc là, c'était l'idée, là, c'était prendre vraiment autour de mon solo, de montrer que je peux tisser les liens en tant que être humain, en tant que aussi dans le dialogue musical. Donc, il faut montrer aussi la kora, c'est un instrument et il est capable de partager avec tout le monde qui est là, qui voulait faire des choses avec moi.
Mmh. Voilà. Une belle rencontre aussi, c'est celle avec Vincent Segal. La rencontre, le partage, évidemment. Pardon, tout ça semble évident. Vous avez enregistré deux disques ensemble, Chamber Music en 2009 et Musique de Nuit en 2015. Il y a beaucoup d'aisance, enfin beaucoup de naturel dans cette rencontre. Est-ce que c'est vrai qu'il a sa chambre chez vous à Bamako, Vincent Segal?
Oui, je peux dire Vincent. Bon, les gens puissent comprendre légèrement. Là, pour moi, c'est comme un frère. Parce qu'il a presque bientôt une quinzaine d'années. Donc là, on a partagé plein de choses. Et dans la vie. Et là, je connais toute sa famille, bon, lui aussi, oui. Il a sa chambre, toujours là-bas. Là, on est en train de faire aussi notre programme. Ben, s'il vient, là, c'est toujours comme ça.
Il sera d'ailleurs le 26 octobre à La Cigale avec vous sur scène, Vincent Segal, donc au violoncelle. J'ai vu d'ailleurs à Bamako que votre maison, il y avait plein d'artistes qui sont les bienvenus. Dans votre maison, vous-même, Balaké Sissoko, vous vivez donc entre Bamako et la France, Paris ou ailleurs?
Oui, c'est ça. Je vis entre la France et puis Bamako. Parce que là, c'est ça aussi. Parce que la France, c'est un plein tournant pour moi. Donc là, j'ai pas mal d'engagement. Donc là, je reste pour faire tous ces trucs. Même si j'ai une semaine, là, je rentre.
Ouais.
Ouais.
Balaké Sissoko, en 2012, le Mali est rentré dans une crise grave due à une insurrection des groupes salafistes, qui s'inscrit d'ailleurs dans le contexte de la guerre du Sahel, des rébellions Touareg. J'ai eu, moi, la chance d'aller en 2009 au Mali, entre le pays Dogon, Nioro du Sahel, Bamako. J'ai vu à Bamako, justement, que cette ville était d'une richesse culturelle incroyable.
Ouais.
On a vu des rencontres de la photographie. Mathieu Chédid a fait un disque aussi là-bas. Il y a des grandes manifestations d'ampleur nationale, internationale. C'est comment, actuellement, Bamako?
Actuellement, bon, je peux dire, là, j'ai tous les voix que ça continue. Ça commence à aller petit à petit, donc c'est pas comme avant, mais ça prend du temps aussi de venir à normal. Donc là, c'est quelque chose. Je salue le Malien aussi parce qu'il y a une collectivité qui est très forte. Même il y a la crise, tout, mais la population, on est unis. Donc là, je crois que je suppose que là, ça continue comme ça pour essayer de passer de ce moment qui est un peu délicate. Ouais.
Djourou, on va écouter un extrait de votre disque, ça veut dire quoi?
Djourou, en langue bamanankan, c'est le cordon.
Les cordes, c'est aussi un lien.
Voilà.
Ouais. On va écouter votre lien entre Camille, la chanteuse, et vous-même. Merci. Balaké Sissoko, Kora. À 8h47 sur France Musique, la voix de Camille avec Balaké Sissoko à la Kora, un extrait de votre disque Balaké Sissoko, le précédent Djourou, où vous avez invité beaucoup de chanteurs. On a choisi voilà, ce matin d'inviter Camille. Comment ça s'est fait là? C'est de l'improvisation ou vous avez travaillé la composition ensemble? Au niveau du texte et de la musique?
En fait, le moment était très fort, hein, parce que depuis les premières rencontres, juste, elle m'a posé quelques questions. Donc moi, j'étais en train de jouer, elle est en train de lire son texte. Donc là, c'était pas que chacun a son coin de travail, non. Donc là, c'était vraiment dans le parc, à côté de chez lui.
On voit une vidéo, effectivement, voilà. Vous êtes dans l'herbe tous les deux.
Magnifique. Ouais. Donc là, c'était les moments qui étaient très forts. Ouais.
Est-ce qu'il y a des partitions pour Cora, de la musique écrite? Est-ce qu'il y a une école, quelque chose qui se développe dans ce sens-là? Ou c'est vraiment que de la tradition orale?
Oui, c'est... En fait, il n'y a pas de partition. Mais moi, comme j'ai beaucoup travaillé avec des gens qui lisent les solfèges, qui font des partitions, donc là, j'ai beaucoup collaboré avec ces gens-là. Mais j'ai quelque chose à ma manière aussi de faire. Mais ce n'est pas vraiment légal. Il y a une écriture et à la base de ça, non.
Mmh. Vous êtes dans la transmission, vous avez des élèves ou des gens qui veulent apprendre à vos côtés,
oui,
la Cora?
Il y a beaucoup déjà, parce que là, c'est ça que je dis que moi, ma pensée, donc ce n'est pas que là, je transmettre. Avec mon fils ou des parents, c'est la porte est grandement ouverte pour tout le monde. Mmh. Donc là, je voulais partager vraiment, franchement, largement, que ça soit quelque chose qui reste, quoi.
Oui. Voilà. Votre instrument, donc là, qui vous attend, vous pouvez nous le décrire, comment c'est fait, cette Cora? Quel bois? Combien il y a de cordes?
Oui, bon, en fait, à l'origine aussi, là, c'était 22 cordes. Mais depuis,
22.
Oui, 22. Mais le premier personne qui a utilisé, donc depuis à son décès, on a suspendu une corde donc pour lui faire l'hommage.
D'accord.
Mais là, et moi j'ai repris aussi, donc c'est l'ombre avec. Et pour élargir ma musique aussi, donc là j'ai mis encore 22 cordes donc pour avoir le si bémol ou si bémol.
Très bien. Eh bien, on va vous entendre dans quelques instants. Balaki Sissoko, une dernière question que nous posons avant de vous écouter jouer. Si vous pouviez, là, vous partiriez où, Balaki Sissoko? Avec quelle musique et avec qui également?
Je n'ai pas bien compris la question. Si?
Si vous pouviez partir quelque part, peut-être avec une baguette magique, vous iriez où dans le monde? Et en écoutant quelle musique?
En l'écoutant, moi, en fait... ça dépend les moments que là je... Pour moi, il n'y a pas mauvaise musique, mais ça dépend les moments que là je me sens. Mmh. Donc du coup, moi je l'écoute...
Et là maintenant, par exemple?
Là maintenant, là je l'écoute beaucoup, la musique indienne.
D'accord. Voilà. Et on partira en Inde alors, pourquoi voilà. Pas. Alors, vous allez vous déplacer de quelques mètres vers votre Cora. Merci beaucoup d'être venu, Balaki Sissoko.
Merci.
Je rappelle vos concerts très bientôt, le 21, c'est-à-dire ce samedi en Suisse. Et puis très prochainement, le 4 septembre au festival Les Pluies de Juillet. Et puis en octobre, à Paris, au New Morning le 1er. Et à La Cigale le 26, accompagné de tous vos musiciens amis à vos côtés. Merci beaucoup, Balaki Sissoko, d'être venu ce matin.
Merci bien.
On va vous laisser vous diriger vers votre Cora. Dans le studio, tout est branché. Il y a plein de gens face à moi, à la régie, parce qu'on est tous très heureux d'avoir ce morceau en direct. 8h50 sur France Musique, Balaki Sissoko. Touti, c'est ce morceau, le prénom de votre maman, m'avez-vous dit, Balaki Sissoko, un extrait de votre disque Atuma, qui sort en septembre sur le label No Forma. Thank you. Balaké Sissoko en direct sur France Musique avec ce morceau Tutti, un extrait en direct par chance. Quel plaisir d'avoir cet extrait de votre nouveau disque à Touma. Je vous laisse vous réasseoir à mes côtés. Balaké Sissoko, là vous êtes seul. Je sais que vous êtes aussi, on en a parlé beaucoup, accompagné sur scène aussi avec votre groupe, les 3MA, on prononce comme ça.
Oui.
Quel est votre, vous avez tout autant de plaisir à jouer avec justement chanteurs, musiciens d'ici et d'ailleurs ou tout seul pour vous? C'est le même plaisir.
Ouais, c'est le même plaisir parce que pour moi c'est l'avantage aussi. Là j'ai appris la musique comme ça et à l'oreille, donc là je m'adapte vite. Mm-hmm. Donc du coup là c'est un peu difficile parce que là je l'écris pas, mais quand même bon, avec l'oreille, là j'ai en train de me s'en sortir très bien.
Est-ce que l'ensemble instrumental du Mali existe encore? Celui qui avait fondé votre père et puis que vous avez repris donc dans les années 80.
Franchement là c'est dommage. Là, c'est déjà dénigré parce que là c'était vraiment une très belle école, mais maintenant, là, ça risque de disparaître.
Ouais. Ouais. Vous êtes toujours en contact avec certains des musiciens?
Oui, quand je les revois même, là, je suis un peu déçu. Les manières, donc, ça ne travaille pas comme avant.
Ah.
Et il n'y a pas les voyages comme avant. Donc, franchement, là, c'est. Là, je dis ça, ouais, c'est un peu. Là, c'est dur. Mmh. Oui.
Balaké Sissoko, est-ce qu'il y a des artistes avec qui vous aimeriez encore, des nouvelles personnes avec qui vous aimeriez travailler ou des projets?
Et, par contre, moi, à ça que j'ai dit dès le début, je suis toujours ouvert, toujours curieux d'avoir des choses, de partager l'envie. Donc, ça vient avec le temps.
Mmh. Voilà. Bah vous parliez de musique indienne tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez jouer avec des musiciens indiens? Pourquoi
ouais,
pas?
On a joué beaucoup. Même là, j'étais dans une résidence, mais c'était magnifique.
Ah.
Ouais. Donc là, c'est quelque chose. Quand je dis là, j'aime bien ça parce que là, pour moi aussi, là, tellement, là, je me suis. Dans la musique, il y a des passions que là, je l'écoute. Un peu comme raga, donc moi j'ai ça aussi.
Mm-hmm.
Donc là je peux faire des trucs, de me soigner d'abord, donc de dialoguer avec l'instrument, essayer de la donner et l'affection de prendre aussi. Donc là je prends du temps pour dialoguer avec mon instrument. Donc les Indiens disent ça, bo raga, bo pour boire là c'est du raga mandingue quoi.
Il faut l'inventer.
Voilà.
Merci beaucoup, Balaké Sissoko. Grâce à vous, on finirait par croire que tout est poésie, légèreté, partage et douceur. Ça fait beaucoup de bien.
Merci
d'avoir été avec nous et on vous souhaite de très bons concerts.
Merci.
À venir. On viendra vous voir, j'en suis sûre. Et bien voilà, notre émission s'achève ainsi. Anne Montaron me regarde. Ben voilà, elle est prête, mais non, il faut aller dans l'autre studio. Anne, j'ai le temps de répondre le temps que Anne aille dans son studio pour son été musical.
Merci.
À la réponse à notre question aujourd'hui, que je ne sais plus, j'ai perdu tous mes papiers. Il fallait répondre Franz, c'était le film de Jacques Brel et Barbara, film de Jacques Brel justement en 1971. Merci beaucoup pour vos réponses. Quatre gagnants aujourd'hui, Denise de Clamart, Michel d'Amboise, Vincent de Montreuil ou encore Jean-Marie au Grand Quevilly. Merci beaucoup à toute l'équipe de Musique Matin, ils sont nombreux face à moi. Merci Valentin Carpentier, Margot Muller, Taïsia Froidur à la réalisation et à la technique, à la recherche de tous les câbles qu'il fallait pour la Cora de Balaké Sissoko, entre autres Titouan Labarre et YouTube Diego Hac Lopez. Demain, nous recevrons la musicienne Christina Pluart. Je vous retrouve avec grand plaisir à 7h30 pour Musique Matin et vous êtes donc maintenant, si elle est dans son studio, Anne Montaron, êtes-vous là?
Je suis là, je suis revenue.
Vous nous espionniez.
J'ai été happée par la cora de Balaké Sissoko, évidemment. Merveilleux instrument, merveilleux musicien. Merci Gabrielle.
Bonne émission Anne.
Merci, à demain, à 7h30.
À réécouter sur francemusique.fr.